un quartier qui s'appelle Frémont. C'est presque un nom français. Et j'en ai déjà, je crois, parlé à une ou deux occasions. On y retrouve presque l'atmosphère du vieux Nice. Avec les hordes de touristes l'été en moins. Il y a beaucoup de petits cafés, des restaurants d'un peu partout dans le monde, des magasins de brocante, des magasins où on peut acheter aussi des vêtements d'occasion, des petits cafés théâtres. C'est un peu le quartier artiste bohème de Seattle. Et c'est très en contraste avec le centre-ville ou des quartiers comme Redmond où se trouve le siège social de Microsoft, la haute technologie. Mais ce qui est le plus intéressant, peut-être, le plus amusant, c'est la pancarte qui se trouve sur le pont, le grand pont, sur lequel on doit passer pour rentrer dans ce quartier. Et cette grande pancarte, elle dit simplement « Bienvenue à Frémont, le centre de l'univers ». C'est vrai qu'on a tous tendance à faire du nombrilisme. Le nombrilisme, ça veut dire qu'on se considère comme le centre du monde. Et ma question aujourd'hui, peut-être, c'est quel est le centre de votre univers ? Peut-être que c'est votre travail. Peut-être c'est votre petite fille. Vos enfants. Vos loisirs. Quel est le centre de votre univers? C'est à vous de répondre. Mais attention, la réponse est très importante. Parce que si elle est fausse, vous n'allez pas aller bien loin. Comme vous le savez, les Grecs avaient une grande culture intellectuelle. Mais ils auraient eu du mal à faire partir des fusées vers la Lune. Parce qu'ils n'avaient rien compris à l'astronomie. Et vous savez quel était leur problème? Ils pensaient pas que Frémont ou Athènes étaient le centre de l'univers, mais ils pensaient que la Terre était le centre de l'univers. Il a fallu attendre les découvertes de Copernic, de Kepler, pour que l'astronomie fasse enfin des progrès réels. Et un auteur chrétien faisait remarquer que c'est la même chose pour l'homme lorsqu'il rejette délibérément le Fils de Dieu. Nous vivons dans un monde qui a rejeté Dieu et son Fils. Et nous voyons les résultats catastrophiques de cette chose. Mais un jour, le Seigneur des Seigneurs va revenir pour prendre la première place qui lui revient, qui lui appartient.
one day the Lord of Lords is going to return to take the place that belongs to him.
Et c'est pas tant qu'il ne sera pas revenu, le monde ne pourra jamais retrouver la paix, l'équilibre, l'espérance.
And until he comes back, the earth will never find peace, hope, balance.
On voit les efforts de l'homme avec la guerre, la diplomatie. Et puis il suffit d'une fusée qui loupe un peu sa trajectoire. Qui détruisent l'ambassade de Chine à Belgrade. Pour que peut-être la guerre reparte de plus belle. Et dans les chapitres 8 et 9 de l'Apocalypse, nous avons justement vu une société qui faisait disparaître Dieu de son horizon. De ses préoccupations. Et malgré les terribles jugements qui venaient sur la terre, ces gens continuaient dans l'idolâtrie, les meurtres, la drogue, l'inconduite, l'immoralité sexuelle, et tout ça peut être résumé dans ce dernier verset du chapitre 9 où il est dit « Ils ne se repentirent pas ». Et souvent la Bible procède par clair-obscur. On va voir maintenant quelque chose de beau. On va voir Jésus lui-même.
And often the Bible progresses from
clear, dark and clear.
From the dark to the clear.
Mm-hmm. Et nous allons voir dans les chapitres 10 et 11, Christ décrit selon le rang qui lui revient.
And we'll see in chapters 10 and 11 Christ coming back in the glory that is due him.
Mm-hmm. Je vous invite à lire ensemble le verset chapitre 10.
So let's read together in chapter 10.
Je lis dans la version à la colombe. Je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel vêtu d'une nuée. Sur sa tête était l'arc-en-ciel. Son visage était comme le soleil et ses jambes comme des colonnes de feu. Il tenait à la main un petit livre ouvert. Il posa le pied droit sur la mer et le gauche sur la terre. Et il cria d'une voix forte comme rugit un lion. À son cri, les sept tonnerres firent entendre leur voix. Quand les sept tonnerres eurent parlé, j'allais écrire, mais j'entendis du ciel une voix dire « Ferme d'un sceau ce qu'ont dit les sept tonnerres et ne l'écris pas. » Et l'ange que j'avais vu debout sur la mer et sur la terre leva la main droite vers le ciel, puis il jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et ce qui s'y trouve, la terre et ce qui s'y trouve, la mer et ce qui s'y trouve, il jura qu'il n'y aurait plus de délai, mais qu'au jour de la voix du septième ange, quand il s'apprêterait à sonner de la trompette, alors le mystère de Dieu s'accomplirait, comme il en avait annoncé la bonne nouvelle à ses serviteurs les prophètes. Et la voix que j'avais entendue venir du ciel me parla de nouveau en ces termes, « Va, prends le petit livre ouvert dans la main de l'ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre. » J'allai vers l'ange en lui disant de me donner le petit livre. Et il me dit, « Prends-le et avale-le. Il remplira d'amertume tes entrailles, mais dans ta bouche il sera doux comme du miel. » Je pris le petit livre de la main de l'ange et je l'avalai. Il fut dans ma bouche doux comme du miel, mais quand je l'eus mangé, mes entrailles furent remplies d'amertume. Puis on me dit, « Il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, de nations, de langues, de rois. » Amen. Un autre ange puissant. Certains commentateurs bibliques pense qu'il s'agit ici simplement d'un ange puissant. Encore une fois, on rappelle que le mot ange en grec ne veut pas nécessairement dire un être super surnaturel qui aurait des grandes ailes blanches. Le mot ange veut simplement dire messager. Et quand on considère la description de cet ange, il semble beaucoup plus probable qu'il s'agisse de Jésus-Christ lui-même. Alors, je ne veux pas être dogmatique. Et si vous avez une opinion différente basée sur certains passages, je ne veux pas vous la transformer. Ce qui est intéressant, c'est que les commentateurs qui pensent que c'est un ange simplement, doivent dire qu'en fait, cet ange venait de voir Jésus-Christ parce qu'il a tous les attributs de Jésus-Christ. Vous souvenez peut-être, on l'a déjà remarqué, que dans l'Ancien Testament, il est souvent question de l'ange de l'Éternel. Et là, tout le monde s'accorde à dire que ce sont des apparitions de Jésus-Christ avant son incarnation à Bethléem. Donc, ce ne serait pas la première fois que Jésus-Christ serait appelé un ange. D'autant qu'il est par excellence le messager envoyé par Dieu, son Fils. Certains disent aussi, mais là, normalement, Christ revient à la fin de la grande tribulation. Et c'est vrai que chronologiquement, on n'est pas encore à la fin de cette grande tribulation. Mais n'oublions pas que Jean est en train de voir des visions. Et pour moi, ce passage se comprend le mieux en considérant que c'est une avant-première du retour de Jésus-Christ prenant possession de la terre. Remarquons certains passages. Voyez que cet ange descend du ciel vêtu d'une nuée. Dans Matthieu 24:30, il est dit, le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venir sur les nuées du ciel avec beaucoup de puissance et de gloire. L'Apocalypse, au premier chapitre, verset 7, disait « Voici qu'il vient avec les nuées, tout homme le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre, se la montreront à son sujet. Oui, Amen. » 1:7. Apocalypse 1:7. Il est dit que sur sa tête était l'arc-en-ciel. Nous avons vu que dans la salle du trône, dans l'Apocalypse 2, il y avait un arc-en-ciel qui avait l'aspect de l'émeraude qui était autour du trône. Et qu'est-ce que signifie l'arc-en-ciel dans la Bible?
And what does the rainbow stand for in the Bible?
Ce symbole a été repris beaucoup par le Nouvel Âge.
This symbol has been taken up again by many in the New Age movement.
Mais c'est un symbole biblique par excellence.
And it's actually a biblical symbol.
C'est un symbole de la grâce et de l'amour de Dieu. Dans la Genèse, après le déluge, dans la Genèse 9:13, il est dit, c'est Dieu qui parle, « Je place mon arc dans la nuée, l'arc-en-ciel dans les nuages. Il sera un signe d'alliance entre moi et la terre. » Quand j'aurai rassemblé des nuages au-dessus de la terre, l'arc paraîtra dans la nuée et je me souviendrai de mon alliance entre moi et vous, ainsi que tous les êtres vivants et les eaux ne se transformeront plus en déluge pour détruire toute chair. Souvent, lorsqu'il commence à pleuvoir longtemps, lorsqu'il y a des inondations, les gens disent c'est de nouveau le déluge. Et nous avons la promesse de Dieu qu'il n'en fera plus de déluge. Dieu disait, l'arc sera dans les nuages et je le regarderai pour me souvenir de l'alliance perpétuelle entre Dieu et tous les êtres vivants qui sont sur terre. Encore une fois, il est très important de réaliser la dimension de l'amour de Dieu, de sa grâce. Les jugements terribles viennent de prendre la moitié de la population de la terre. Mais lorsque Christ apparaît aux hommes, il vit avec ce symbole de sa grâce et de son amour. Pour moi, ça me rappelle cette prière du prophète Habakkuk. Dans Habakkuk 3:2, l'Éternel dit, c'est Habakkuk qui parle, le prophète qui parle à Dieu et qui dit, Éternel, j'ai entendu ce que tu as annoncé, j'ai de la crainte. Éternel, devant ton œuvre, accomplis-la dans le cours des années. Dans le cours des années, fais-la connaître. Mais dans ta colère, souviens-toi de ta compassion. L'arc-en-ciel, les nuées. Maintenant, il est question d'un visage qui était comme le soleil. Ça nous rappelle l'Apocalypse, le début, la description des versets 14 et 16 que je vais lire. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme laine blanche, comme neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, ses pieds comme du bronze qui semblait rougi au four, et sa voix était comme la voix des grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force.
That 14, and sat in his hair were white like wool, like white like snow, and his eyes were like a flame of fire. And at the end of verse 16 it says his face was like the sun shining in his strength.
Donc, vraiment de fortes présomptions qu'il s'agisse vraiment du Christ. Vous vous souvenez que Jean avait eu cette vision où seul l'agneau de Dieu pouvait prendre le livre tendu par Dieu. Et on a vu l'ouverture des sept sceaux qui scellaient ce livre. Ici, il est question d'un petit livre ouvert. Certains disent que c'est un terme grec différent, donc c'est un autre livre. Mais je pense aussi qu'il s'agit du même livre, du titre de propriété de la terre. Il tenait à la main ce petit livre ouvert, il posa le pied droit sur la mer et le gauche sur la terre, et il cria d'une voix forte. C'est une image très forte de Jésus reprenant possession de la terre. Nous savons qu'il est l'agneau de Dieu, mais ici nous le voyons rugir en tant que lion de Juda. Ça nous rappelle le diable aussi qui rugit comme un lion. Notre adversaire qui rôde, cherchant qui dévorer. Et ça ne devrait pas nous étonner parce que le diable, Satan, ses activités préférées, c'est de contrefaire ce que fait Dieu. S'il sait que l'agneau de Dieu peut rugir comme le lion de Juda, alors il se dit, oh, ça a l'air de marcher, je vais rugir aussi comme ça. Mais rappelons-nous qu'à la croix, ses crocs, son dentier est tombé. Le monde est encore sous sa coupe, mais il n'a plus le pouvoir qu'il a eu à un moment. Comme une vieille personne, il peut arriver avec ses gencives à vous mâchonner. Si vous tombez sous le coup de sa peur, mais c'est l'Éternel qui rugit comme un lion. Et c'est une image qu'on retrouve dans tout l'Ancien Testament. Le prophète Joël, dont parlait le pasteur David Wilkerson vendredi soir, dit dans Joël 3:16, de Sion l'Éternel rugit, de Jérusalem il donne de la voix, le ciel et la terre sont ébranlés, mais l'Éternel est un refuge pour son peuple, un abri pour les Israélites.
Israel.
Jérémie 25:30 parlait de sa demeure sainte, l'Éternel donne de la voix. Il pousse des rugissements contre ce qui est son domaine. Il pousse un cri contre ceux qui foulent au pressoir, contre tous les habitants de la terre. Le prophète Osée disait dans Osée 11:10, ils suivront l'Éternel qui rugira comme un lion, car il rugira et les fils accourront de la mer en tremblant. Il est question de sept tonnerres aussi. Et là, il y a une chose intéressante. Vous savez que le mot apocalypse en grec, ça veut dire simplement la révélation. Mais apparemment, Jean a une révélation, il entend ces sept coups de tonnerre. Et il a pris sa plume, il a dit qu'il allait écrire. Mais il a dit, ferme d'un seau ce qu'ont dit les sept tonnerres, c'est-à-dire ne le révèle pas. Ce qui nous montre que Dieu ne nous a pas encore tout révélé. La chose intéressante, c'est que sur ce passage, les commentaires, c'est qu'il y a plus de pages ou de lignes essayant de décrire ce qui était caché que ce qui est dit. Et je dois demander moi-même, je dois me demander, et vous devez vous demander aussi, est-ce que des fois je ne suis pas plus intéressé par ce qui n'est pas révélé? Que par ce qui est clairement révélé. Quand on voit la multiplicité des dénominations d'Église, bien souvent c'est parce qu'ils vont se fixer sur des choses qui ne sont pas complètement claires. Et ils vont en tirer des conclusions extrêmes. Il est un verset clé dans la Bible, Deutéronome 29:28, en anglais c'est 29:29. Où il est dit, les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos fils à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Ce que Dieu a révélé clairement nous appartient et à nos fils. Sous-entendu, ces choses, nous devons les partager autour de nous, dans nos familles, avec nos fils. Et puis il y a des choses que Dieu a cachées. Sans doute pour de très bonnes raisons. Mais bien souvent, nous sommes plus intéressés à la Bible par curiosité que par l'obéissance ou le désir d'obéir. Et c'est pas étonnant que chaque année, il y a dans tous les magazines font un ou deux numéros à forte vente. Sur le dernier message reçu de Dieu. La vie des extraterrestres sur la planète Lambda. Les ordinateurs qui ont retrouvé toutes les actualités de la semaine en ingurgitant la Bible et en faisant des codes secrets. Il n'y a rien de mal à exercer notre intelligence et à essayer de comprendre davantage. Mais je crois que c'est triste pour Dieu lorsqu'il voit que nous sommes plus intéressés par les devinettes que par les commandements. Paul lui-même nous a dit qu'il avait pas permis à un homme d'exprimer. Nous avons déjà tant reçu. Lisons la parole de Dieu avec le désir sincère de l'appliquer dans nos vies. La parole de Dieu est replète de passages qui nous disent la bénédiction à recevoir cette parole. Nous chantions tout à l'heure un chant qui exprime un psaume de David. Je vous encourage toujours davantage à goûter la parole, goûter et voir combien elle est bonne. Combien elle est nécessaire à votre intelligence pour reprogrammer correctement tout ce que vous avez reçu. Et c'est vrai que Dieu nous parle par sa petite voix, mais il a la capacité de parler comme le tonnerre, comme l'orage. Il est important de chercher à l'écouter lorsqu'il veut nous parler avec sa petite voix. Car en général, lorsqu'il parle avec sa grosse voix, c'est pour exprimer le jugement. Verset 5. L'ange que j'avais vu debout sur la mer et sur la terre leva la main droite vers le ciel, puis il jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et ce qui s'y trouve, la terre et ce qui s'y trouve, la mer et ce qui s'y trouve, il jura qu'il n'y aurait plus de délai. Alors peut-être, si vous connaissez la parole ou l'évangile, notamment l'évangile de Matthieu, vous allez me dire, mais il nous est expressément interdit de jurer. Jésus, dans Matthieu 5, 33, disait, vous avez encore entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne parjureras pas, mais tu t'acquitteras envers le Seigneur de tes serments. Et Jésus de dire, mais moi je vous dis de ne pas jurer, ni par le ciel, parce que c'est le trône de Dieu, ni par la terre, parce que c'est son marchepied, ni par Jérusalem, parce que c'est la ville du grand roi. Ne jure pas non plus par ta tête, car tu ne peux rendre blanc ou noir un seul cheveu, que votre parole soit oui, oui, non, non. Et il ajoute, ce qu'on ajoute vient du malin, du diable.
Or by other things.
Et le chrétien ne devrait pas avoir à jurer. Lorsqu'il dit oui, on devrait pouvoir compter sur lui. S'il dit non, sa parole devrait être aussi non.
And if he says no, his word should be no.
Alors pourquoi est-ce que Dieu irait jurer?
So why would God swear?
Toujours parce qu'il veut, il nous aime.
As always, it's because he loves us.
Il veut comme nous secouer.
And he wants to shake us up.
Il veut nous convaincre de ses promesses. Alors, bien sûr, il a un problème, entre guillemets.
He has a hypothetical problem.
En principe, on ne dit pas « je te le jure sur la tête de mon caniche ». En principe, on jure sur quelque chose de très cher ou sur quelque chose de supérieur.
In general, we swear or take an oath on something stronger, more superior.
Et Dieu, n'ayant personne au-dessus de lui, doit jurer par lui-même. Dans Hébreux 6,13, il est dit, lorsque Dieu avait fait une promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, alors il jura par lui-même. Et qu'est-ce qu'il nous promet? Qu'il ne va plus y avoir de délai. Mais qu'au jour de la voix du septième ange, verset 7, quand il s'apprêterait à sonner de la trompette, alors le mystère de Dieu s'accomplirait comme il en avait annoncé la bonne nouvelle à ses serviteurs les prophètes. Ça fait un moment que Dieu attend. Vous savez, on en parle souvent. Souvent, les personnes prennent ça comme du laxisme. Ou même de l'impuissance. Quand ce n'est pas l'absence de son existence. C'est vrai que des fois, même parmi les chrétiens, on fait quelque chose, on contre le Seigneur, on pêche. Puis on se dit, ben, le ciel ne m'est pas tombé sur la tête, entre guillemets.
You might say that the sky isn't falling on my head.
Alors on se dit, c'est peut-être pas si grave que ça, après tout.
Maybe it's not as serious as all that, after all.
Et on commence à compromettre notre démarche avec Dieu. Nous prions que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Non? Notre Père. Nous disons que ta volonté soit faite, que ton règne vienne.
We pray.
Et pourtant, ça n'arrive pas tout de suite. Et ça devient peut-être d'une mauvaise conception d'un terme, d'un concept très important. On parle de l'omnipotence de Dieu. Sa toute-puissance. Et souvent, on pense que l'omnipotence, ça veut dire pouvoir tout faire. Et les gens se disent, mais alors, si Dieu peut tout faire, pourquoi est-ce qu'il ne vient pas détruire le mal s'il en a le pouvoir? S'il ne le fait pas, c'est soit qu'il est, il est injuste ou il est cruel.
Then he's injust or cruel.
si vous devez vous rappeler d'une chose aujourd'hui, rappelez-vous de ça. Dieu est omnipotent. Il a tout pouvoir. Mais ça ne veut pas dire qu'il puisse faire n'importe quoi. Et je vais vous poser une question qui va vous faire réaliser cela. Vous l'avez peut-être déjà entendu. Une question philosophique. Dieu peut-il créer un rocher si lourd qu'il ne puisse pas le soulever? Ah. Soit il peut créer ce rocher. Alors il ne peut plus le soulever. Ou alors il peut toujours soulever le rocher, mais il n'a pas pu créer un rocher si lourd qu'il ne pouvait plus le soulever.
Vous
voyez que c'est une petite question humoristique. Mais ça montre là aussi que l'omnipotence, ça ne veut pas dire faire n'importe quoi. Dieu peut tout faire en harmonie avec son caractère et ses attributs divins. Donc c'est vrai, il pourrait venir détruire le mal instantanément. Mais combien d'entre nous seraient encore là? Ce n'est pas du laxisme en ce moment. C'est de l'amour et de la patience. Paul disait dans Romains 2, 4, méprises-tu les richesses de sa bonté, de son support et de sa patience, sans reconnaître que la bonté de Dieu te pousse à la repentance. Pierre disait dans 2 Pierre 3:9, le Seigneur ne retarde pas l'accomplissement de sa promesse, de son retour comme quelques-uns le pensent. Il use de patience envers vous. Il ne veut pas qu'aucun périsse, mais il veut que tous arrivent à la repentance. Dieu, notre Sauveur, veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Mais attention, parce qu'ici, nous avons une promesse solennelle. Que le temps de la patience de Dieu va arriver à sa fin. Il arrivera un moment où il n'attendra plus. Posez-vous simplement la question, que se serait-il passé s'il était revenu il y a 6 mois? Étiez-vous déjà sauvé? S'il était revenu il y a 1 an? 5 ans? 15 ans? S'il était revenu il y a 17 ans, ça aurait été trop tôt pour moi. Qu'en est-il de vous? Est-ce que vous êtes venu à lui? Réalisez que vous êtes à un battement de cœur de l'éternité sans Dieu, ce qu'on appelle l'enfer. La nuit dernière, j'ai reçu un courrier électronique. Annonçant la mort de la maman de la belle-sœur de Nancy.
the mother-in-law of my brother.
Nancy a un frère qui, sa belle-mère est décédée dans son sommeil.
She passed away in her sleep.
À ma connaissance, elle ne connaissait pas le Seigneur.
And to our knowledge, she didn't know the Lord.
Et cet homme qui ne croit pas non plus en Dieu,
and my brother, who doesn't believe in God either,
qui dit ne pas avoir besoin de Dieu parce que tout va bien dans sa vie,
who has told us he doesn't need God because everything in his life is going great.
Commencer une phrase en disant qu'avec ce décès, il réalisait que et je commençais à me réjouir, ça y est, peut-être il va dire qu'il va réaliser que la vie est courte. Mais il continuait en disant qu'il se réjouissait de ce que ses parents étaient encore vivants à lui. Là encore, c'est l'aveuglement par l'ennemi. Où serons-nous tous dans 50 ans? Dans 100 ans? Peut-être qu'on parlera de nous dans une revue de Nice, parlant du quartier. Il y avait une petite église qui se réunissait là. Mais nous avons un rendez-vous.
We all have a rendezvous.
Il est question du mystère de Dieu. Le mystère de Dieu s'accomplira.
The mystery of God will be accomplished.
Qu'est-ce que c'est que ce mystère de Dieu?
What is this mystery of God?
Le mot mystère en grec original n'a pas le sens de mystère et boule de gomme. Secret mystery. Un mystère, c'est quelque chose qui a été révélé plus tard.
A mystery is simply something to be revealed at a later time.
Et dans Éphésiens 1, 9, 10, il est question du mystère de la volonté de Dieu, le dessein bienveillant qu'il s'est proposé en Christ pour l'exécuter quand les temps seraient accomplis. Réunir sous un seul chef, le Christ, tout ce qui est dans les cieux et ce qui est sur la terre.
In Ephesians chapter 1, verse 9, it says he made known to us the mystery of his will, according to his kind intention, which he purposed in him, with a view to an administration suitable to the fullness of the times, that is, the summing up of all things in Christ, things in the heavens and things upon the earth.
Le mystère, c'est que tout soit réuni en lui. Tout ce qui sera en lui sera sauvé, tout ce qui sera en dehors de lui ne le sera pas. On parlait tout à l'heure de l'arche de Noé. Nous ne pouvons plus chercher un bateau quelque part vers le mont Ararat. Mais Jésus est notre arche.
Jesus is our arch.
Jésus vous aime.
Jesus loves you.
Et il veut que vous soyez en lui.
And he wants you to be in him.
Si vous êtes en dehors de lui,
if you are outside of him,
vous serez détruit au moment de ce jugement.
You will be destroyed at the moment of this judgment.
Comme dans l'arche de Noé, tout ce qui était à l'intérieur a survécu, tout ce qui était en dehors a péri. Et nous pouvons partager l'Évangile. Nous pouvons distribuer de la littérature, des traités. Et c'est bon. Mais c'est Dieu lui-même qui vous attire à lui. Par son Esprit Saint. Vous souvenez que dans l'arche de Noé, il était monté des tas d'animaux. Et on peut se demander peut-être que le pauvre Noé, il a dû faire toute la terre pour chercher deux girafes, deux zèbres.
Noah had to go throughout the earth to find two of these creatures.
Mais en fait, dans la Genèse 7-9, il est dit qu'il entra dans l'arche auprès de Noé des couples, un mâle et une femelle, comme Dieu l'avait ordonné à Noé. Il n'est pas dit « Noé fit entrer », c'est Dieu qui avait appelé tous ces animaux. Et si vous êtes ici ce matin, c'est que Dieu vous appelle. Et on voit combien les animaux étaient plus dociles, plus intelligents que les humains. Les gens trouvent toujours de bonnes raisons de remettre au lendemain ou de ne pas croire complètement ou de dire oui, mais... Notre pasteur de Seattle aime bien faire remarquer que même les mules sont rentrées dans l'arche. Ne soyons donc pas plus têtus qu'une mule. Amen. La voix que j'avais entendue venir du ciel me parla de nouveau en ces termes, verset 8. Va, prends le petit livre ouvert dans la main de l'ange. Et puis nous voyons qu'il le prend et il l'avale. Ce livre qui est, nous l'avons dit, le titre de propriété de la terre, nous rappelle aussi que la parole de Dieu, nous devons la manger. Elle doit devenir notre substance même. La parole de Dieu est comparée à du pain dans la Bible. Tout homme vivra non seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Elle est comparée à du lait, désiré comme des nouveautés, le lait non frelaté de la parole. Paul nous parlait de la nourriture solide de la parole. Les enfants commencent d'abord avec les biberons. Et puis après, ils passent au petit pot gerbère. Et puis après, on leur donne des petits morceaux de nourriture solide, de plus en plus dur. On ne commence pas avec du steak. Ils auraient du problème à mâcher. Et finalement, la parole est souvent comparée à du miel. Tes promesses sont douces à mon palais, plus que le miel à ma bouche, disait David. Jérémie disait qu'il avait dévoré les paroles qui s'étaient trouvées devant lui. Et qu'elles étaient devenues le plaisir et la joie de son cœur. Encore une fois, Dieu ne force pas sa parole sur nous. On pourrait imaginer que tous les après-midi, entre 2 et 4 heures, on entend une voix dans le ciel qui nous dise la parole de Dieu. Dieu nous a donné de faire ça par le ministère de la radio ou la télévision, c'est vrai. Mais comme du pain, il nous propose un bon repas. Et si vous n'en voulez pas, il y en aura d'autres qui le voudront. Cette parole, là, nous voyons qu'elle était comme du miel à son palais, mais elle est devenue amère dans ses entrailles. Parce que la parole, la Bible nous annonce cette bonne nouvelle de la grâce de Dieu.
The Bible, the word, announces the good news of God's grace.
mais aussi la dure réalité du jugement pour ceux qui se rebellent contre Dieu. Et si nous assimilons cette parole en nous, alors elle devient nôtre et nous vivons, nous appliquons cette parole. Et ça, c'est aussi une responsabilité pour ceux qui veulent enseigner, d'annoncer tout le conseil de Dieu, sans rien dissimuler. Certains groupes aiment bien annoncer les bonnes choses. Entre guillemets, c'est politiquement correct. Ça peut rapporter plus gros financièrement. Mais si ce n'est pas la vérité, alors c'est inutile. Et puis finalement, il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, de nations, de langues, de rois. C'est le reste de l'Apocalypse que nous devons étudier ensemble. Mon désir, c'est de vous donner cette soif de la parole. David disait, elle est plus précieuse que l'or. Même que beaucoup d'or fin. Les paroles sont plus douces que le miel. Même le miel qui coule des rayons. Nous avons un trésor. Nous avons un Dieu qui nous aime et qui veut nous avertir du danger. Qui nous invite à venir en lui. Ne faisons pas les mules. Amen. Si vous voulez vous lever. Seigneur, nous voulons te remercier pour ta parole, pour sa richesse. Mais surtout aujourd'hui, Seigneur, nous voulons te remercier pour ton rappel. Ce rappel que le temps de ta patience vient à terme. Et qu'en dehors de Christ, il n'y a pas d'espoir. Seigneur, aide-nous à ne pas mépriser les richesses de ta patience, de ta bonté, de ton support. Aide-nous, Seigneur, à reconnaître que c'est ta bonté qui nous change, qui nous conduit à changer de vie, d'aller vers toi. Et si nous l'avons reçu, Seigneur, cette vie en Christ, alors encourage-nous à partager cette bonne nouvelle autour de nous. Et peut-être qu'aujourd'hui, il y a parmi nous certains qui ne l'ont jamais fait encore. Et pendant que nous sommes recueillis, que nous prions, si vous avez le désir de recevoir le Christ aujourd'hui comme votre sauveur et votre maître, alors je vais vous demander de lever la main. Le Seigneur nous vous dit aujourd'hui, poliment, ne soyez pas une tête de mule. Ne laissez pas votre orgueil vous tenir à l'écart du salut. Aujourd'hui est le moment du salut. Quelque part, vous avez une légère envie de le faire, faites-le
anything in you has is expressing a desire to make this step and do it.
Cette femme est partie, je crois, sans savoir, dans son sommeil.
This woman we know in the faith passed away in her sleep without knowing it.
Nous ne savons pas ce que nous réserve demain.
We don't know what tomorrow holds for us.
Encore une fois, si vous le voulez, vous pouvez l'indiquer en levant la main.
Again, if you wish to make this step, just indicate it by raising your hand.
Pour tous.
For each one of us.
Soyons fidèles à Jésus, à sa parole, qu'elle soit notre règle de vie. Que le Seigneur vous donne une bonne semaine. Il continue de vous attirer à lui et de vous utiliser. Amen. Oh, je t'aime, oh, je te loue, tu es tout ce que mon cœur désire. Oh, tenir la main de celui qui me mène à lui qui a tout créé. Oui, tu es celui qui me remplit du désir de faire ta volonté. Oui, tu es celui qui entend tes enfants pleurer. Tu viens en joie, tu changes leur peine. Oui, tu viens en joie, tu changes leur peine. Amen.